Chapitre 45. Ifemelu avait trouvé la petite annonce sur le net dans la rubrique Nigerian Jobs Online. Mensuel féminin de premier plan, recherche chroniqueuse. Elle corrigea son CV, inventa une expérience de journaliste dans un périodique qui avait fait faillite depuis, entre parenthèses, et quelques jours après l'avoir envoyé, elle reçut un appel téléphonique de l'éditrice de Zoe, à Lagos. Il y avait, dans la voix amicale à l'autre bout du fil, une intonation curieusement incongrue. « Oh, appelez-moi Tante Onenu !» dit-elle gaiement quand Ifemelu demanda qui était à l'appareil. Avant de proposer à Ifemelu de l'engager, elle dit d'un ton confidentiel « Mon mari ne m'a pas encouragée quand j'ai démarré ce projet parce qu'il pensait que les hommes me dragueraient si je cherchais à obtenir de la publicité. » Ifemelu eut l'impression que le magazine était un hobby pour Tante Onenu, un hobby auquel elle portait un certain intérêt, mais néanmoins un hobby. Pas une passion dévorante. Et quand elle se trouva devant elle, cette impression se renforça. C'était une femme de prime abord sympathique, mais qu'il était difficile de prendre au sérieux. Ifemelu alla chez Tante Onenu à Ikoyi, en compagnie de Raninudo. Elles s'assirent sur des canapés de cuir qui leur parurent agréablement frais et parlèrent à voix basse jusqu'à l'arrivée de Tante Onenu. Mince, souriante, bien conservée, vêtue d'un pantalon moulant et d'un grand t-shirt, arborant une coiffure exagérément jeune, ses cheveux ondulés descendant jusqu'à la taille. « Ma nouvelle chroniqueuse est arrivée d'Amérique !» dit-elle en embrassant Ifemelu. Il était difficile de lui donner un âge, entre 50 et 65 ans. Mais on voyait tout de suite qu'elle n'était pas née avec ce teint clair. L'éclat de sa peau était trop brillant et les articulations de ses mains étaient sombres, comme si les plis de la peau avaient vaillamment résisté à la crème éclaircissante. « Je voulais que vous passiez ici avant de commencer lundi afin de vous accueillir personnellement, » dit Tante Onenu. « Merci. » Ifemelu trouva cette visite à son domicile peu professionnelle et bizarre. Mais il s'agissait d'un petit magazine, et on était au Nigeria, où les frontières étaient floues, où le travail et la vie se confondaient, et où on appelait la directrice « Mamie ». En outre, elle s'imaginait déjà prenant en main la direction de Zoe, transformant le magazine en un compagnon dynamique, approprié à la femme nigériane, et qui sait, le rachetant un jour à Tante Onenu. Et elle n'accueillerait pas les nouvelles collaboratrices chez elle. « Vous êtes une jolie fille !» dit Tante Onenu, hochant la tête comme si être jolie importait pour le job et qu'elle s'était inquiétée qu'Ifemelu ne le soit pas. « Votre ton au téléphone m'a plu. Je suis sûre qu'avec vous, notre diffusion va dépasser celle de Glass. Vous savez, nous sommes une publication beaucoup plus récente, mais nous les rattrapons déjà. » Un domestique en blanc, un homme âgé à l'air grave, apparut pour leur demander ce qu'elle voulait boire. « Tante Onenu, j'ai lu des anciens numéros de Glass et de Zoe, et j'ai quelques idées sur la façon dont nous pourrions nous différencier. » dit Ifemelu après que le domestique fut sorti pour aller chercher leur jus d'orange. « Voilà une vraie Américaine, prête à se mettre au travail, quelqu'un qui va droit au but. Très bien. Première chose, où nous placez-vous par rapport à Glass ?» Pour Ifemelu, les deux magazines étaient aussi futiles l'un que l'autre, mais Glass était mieux présenté. L'encre des pages couleurs ne bavait pas autant que dans Zoe. Et il était mieux distribué. Dans les encombrements, chaque fois que la voiture de Raninudo ralentissait, un vendeur ambulant venait coller un exemplaire de Glass contre la vitre. Mais voyant que la concurrence était une véritable obsession pour Tante Onenu, qu'elle en faisait ouvertement une affaire personnelle, elle dit « Il y a peu de différence, mais je pense que nous pouvons faire mieux. Il faut réduire les interviews, n'en publier qu'une par mois et faire le portrait d'une femme qui a vraiment réalisé quelque chose de tangible. Seul, nous devons encourager le courrier des lectrices et il faudrait créer une chronique rédigée à tour de rôle par une invitée, consacrer plus d'espace aux questions d'argent et de santé, être plus présent sur le net et cesser de copier les magazines étrangers. La plupart de vos lectrices ne peuvent pas aller au marché acheter du brocoli parce qu'il n'y en a pas au Nigeria. Alors pourquoi y a-t-il dans le Zoe de ce mois une recette de crème de brocoli ?» Oui, oui. » dit lentement Tante Onenu. elle paraissait interdite. Puis, comme si elle reprenait ses esprits, elle ajouta « Très bien. Nous parlerons de tout ça lundi. » Dans la voiture, Rani Nudo dit « Parler comme ça à ta nouvelle patronne, ha ! Si tu ne débarquais pas d'Amérique, elle t'aurait viré sur le champ. » Je me demande ce qu'il y a entre elle et l'éditrice de glace. J'ai lu dans un journal People qu'elle se haïssait. Je suis sûre qu'il y a un homme dans l'histoire. Quoi d'autre ? Les femmes. Je pense que Tantonenu a créé Zoe juste pour faire concurrence à Glass. À mon avis, ce n'est pas une éditrice. C'est seulement une femme riche qui a décidé de lancer un magazine. Demain, elle pourrait l'arrêter et s'intéresser à un spa. Quelle horrible maison, dit Femelou. Elle était monstrueuse, avec ses deux anges d'albâtre flanquant le portail d'entrée et une fontaine en forme de dôme qui crachotait dans la cour de devant. Horrible ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Cette maison est magnifique ! Pas pour moi, dit Femelou. Pourtant, il était un temps où elle trouvait belles les maisons de ce genre. Mais désormais, elle critiquait avec l'assurance condescendante de quelqu'un qui reconnaît le kitsch. Son générateur est aussi gros que mon appartement et il est complètement silencieux. As-tu remarqué le bâtiment qu'il abrite à côté du portail ? Ifemelu ne l'avait pas remarqué. Elle en fut dépitée. C'était ce qu'une vraie Lagosienne aurait tout de suite remarqué. Le bâtiment du générateur, la taille du générateur. Dans Kingsway Road, elle crut voir Obinze passer au volant d'une Mercedes noire et elle se redressa, tendant le cou pour mieux regarder. Mais au moment où il ralentissait dans un embouteillage, elle s'aperçut que le conducteur ne lui ressemblait en rien. Il y eut d'autres occasions où elle s'imagina voir Obinze durant les semaines suivantes. Des hommes qui n'étaient pas lui, mais qui auraient pu l'être. L'individu raide comme un piquet en costume-cravate qui entrait dans le bureau de tante Onenu. L'homme à l'arrière d'une voiture aux vitres teintées, penché sur son téléphone. Quelqu'un derrière elle dans la queue au supermarché. Elle imagina même, quand elle alla pour la première fois rendre visite à son propriétaire, qu'elle allait entrer et trouver Obinze assis là. L'agent immobilier lui avait dit que le propriétaire préférait avoir des expatriés comme locataires. « Mais il s'est détendu quand je lui ai dit que vous reveniez d'Amérique », avait-il ajouté. Le propriétaire était un homme âgé en caftan brun et pantalon assorti. Il avait la peau tannée et l'air las de quelqu'un qui a beaucoup souffert aux mains des autres. « Je ne loue pas au Igbo », dit-il doucement. Elle eut un sursaut. Tenait-on de tels propos aussi facilement aujourd'hui ? Cela avait-il toujours été le cas et l'avait-elle simplement oublié ? C'est ma politique depuis qu'un Igbo a détruit ma maison à Yaba. Mais vous semblez responsable. Oui, je suis responsable, dit-elle avec un simulacre de sourire. Les autres appartements qui lui plaisaient étaient trop chers. Bien que la tuyauterie sous l'évier de la cuisine soit apparente, les toilettes bancales et le carrelage de la salle de bain posée à la va-vite, elle ne pouvait s'offrir mieux. Le salon donnait une agréable sensation d'espace, avec ses grandes fenêtres et l'escalier étroit qui menait à la minuscule véranda. Mais surtout, l'appartement était situé dans Ikoyi. Et elle voulait habiter Ikoyi. Dans son enfance, Ikoyi respirait le chic, un chic lointain hors de son atteinte. Les gens qui y vivaient n'avaient jamais de boutons sur le visage et ils avaient des chauffeurs qu'on appelait « le chauffeur des enfants ». Le jour où elle visita l'appartement, elle sortit sur la terrasse et regarda la maison voisine. Une vaste demeure coloniale, aujourd'hui d'une vétusté jaunâtre, le parc englouti par le feuillage, l'herbe et les arbustes entremêlés. Sur le toit, dont une partie s'était écroulée, elle vit quelque chose bouger, un éclair de plumes turquoise. Un paon. L'agent immobilier lui dit qu'un officier de l'armée y avait vécu à l'époque du régime du général Abacha. À présent, la maison faisait l'objet d'un procès. Et elle se représenta les gens qui avaient vécu dans cette maison 15 ans plus tôt, alors qu'elle, dans un petit appartement du continent surpeuplé, rêvait de leurs existences sereines et sans entraves. Elle remplit un chèque pour 2 ans de loyer. C'était pour cette raison que les gens recevaient et demandaient des pots de vin. Comment sinon payer honnêtement 2 ans de loyer d'avance ? Elle avait l'intention de fleurir la véranda de lys blanc dans des pots de terre cuite. Mais il lui fallait d'abord trouver un électricien pour installer l'air conditionné, un peintre pour repeindre les murs crasseux et quelqu'un pour poser un nouveau carrelage dans la cuisine et la salle de bain. L'agent fit venir un homme qui posa les carreaux. Il mit une semaine et quand l'agent appela Ifemelu pour dire que le travail était terminé, elle se rendit avec impatience à l'appartement. Dans la salle de bain, elle contempla le spectacle, incrédule. Les carreaux étaient mal jointés et il y avait des interstices béants dans les angles. Un carreau avait une vilaine fêlure en son milieu. On eût dit le travail d'un enfant trop pressé. « C'est n'importe quoi ! Complètement saboté ! Il y a un carreau cassé ! Comment peux-tu te contenter d'un travail aussi bâclé ? » demanda-t-elle à l'homme. Il haussa les épaules. Il pensait manifestement qu'elle faisait des histoires pour rien.
« Je pense que c'est du bon travail, tante.
Tu veux que je te paye ?» Un petit sourire.
« Ah, tante, j'ai terminé le travail. »
L'agent immobilier intervint.
« Ne vous inquiétez pas, ma, il va réparer le carreau cassé. »
Le carreleur parut réticent.
« Mais j'ai terminé le travail. Le problème est que les carreaux se cassent facilement, c'est la qualité du carreau.
Tu as fini. Un travail ni fait ni à faire, et tu dis que tu as fini ?» La colère d'Ifemelu grandissait, sa voix montait, plus dure.
« Je ne payerai pas ce qui était convenu, pas question, parce que tu n'as pas fait ce qui était convenu !»
L'homme la regardait fixement, plissant les yeux.
« Et si tu cherches les ennuis, crois-moi, tu en auras !» dit-elle. « La première chose que je vais faire est d'appeler le commissaire de police et ils te mettront en prison à Alakbonklos !»
Elle criait à présent.
« Est-ce que tu sais qui je suis ?» Non, tu ne sais pas qui je suis. C'est pour ça que tu crois pouvoir saloper ce travail pour moi. »
L'homme parut impressionné. Elle s'étonnait elle-même. D'où sortait-elle cette vantardise, ce recours à la menace? Un souvenir lui revint, intact après tant d'années, du jour où le général de tante Uju était mort, de la manière dont tante Uju avait menacé ses parents.
« Non, ne partez pas, restez ici !» leur avait-elle dit. « Ne bougez pas pendant que je vais chercher mes hommes à la caserne de l'armée !»
L'agent immobilier dit
« Tante, ne vous inquiétez pas, il va refaire le travail. »
Plus tard, Raninudo lui dit
« Tu ne te comportes plus comme une Americana !»
Et malgré elle, Ifemelu fut contente de l'entendre dire.
« Le problème est que nous n'avons plus d'artisans dans ce pays, » dit Raninudo. « Les Ghanéens travaillent mieux. Mon boss fait construire une maison et il n'emploie que des Ghanéens pour les finitions. Les Nigérians salopent le travail. Ils ne prennent pas le temps de terminer les choses correctement. C'est terrible. Mais Ifem, tu aurais dû appeler Obinze. Il aurait tout arrangé pour toi. C'est son métier, après tout. Il a toutes sortes de contacts. Tu aurais dû l'appeler avant même de commencer à chercher un appartement. Il aurait pu t'obtenir un rabais sur le loyer dans un de ses immeubles. Peut-être même te trouver un appartement gratuit, Sef. Je ne sais pas ce que tu attends pour l'appeler. »
Ifemelu secoua la tête. C'était du Raninudo tout craché. Pour elle, les hommes existaient uniquement comme source de biens matériels. Elle ne s'imaginait pas appelant Obinze pour lui demander un loyer réduit dans un de ses immeubles. Cependant, elle ne savait pas pourquoi elle ne l'avait pas appelé du tout. Elle y avait songé fréquemment, sortant son téléphone portable pour composer son numéro. Mais elle ne l'avait pas appelé. Il continuait à lui envoyer des emails, disant qu'il espérait qu'elle allait bien ou qu'il espérait que Dike se rétablissait. Et elle répondait de temps en temps, toujours brièvement, des réponses qu'il présumerait venir d'Amérique.